Vous écoutez, on lit pour vous.
Le sucre, la sédentarité ou le vapotage? Un texte de Catherine Anfield, paru le 30 mars 2025 dans la presse. Les régimes faibles en gras ont dominé les années 1980 et 1990, jusqu'au retour en force des diètes faibles en glucides, Atkins, cétogène, dans les années 2000 et 2010. Qu'est-ce qui est pire pour la santé? Le sucre ou le gras? Pour répondre à cette question, May Farage, professeur à l'Université de Montréal, nous présente les résultats d'une étude publiée en 2018 dans Lancet Public Health. Les chercheurs ont justement voulu étudier le lien entre l'apport en glucides et le risque de mortalité. Ils ont étudié le parcours de 15 000 Américains, suivis pendant 25 ans et ayant rempli des questionnaires sur leurs habitudes alimentaires. Résultat, ce sont les gens ayant un apport moyen en glucides de 50 % à 55 % de l'apport énergétique total qui s'en tiraient le mieux en moyenne. Leur espérance de vie projetée à 50 ans était de 83 ans contre 79 ans pour les petits consommateurs de glucides, 30 % et moins, et 82 ans pour les grands consommateurs, plus de 65 %. C'est donc une courbe en U, résume May Farage, chercheuse à l'Institut de recherche clinique de Montréal. Elle conclut « Si tu manges beaucoup de glucides, la mortalité augmente. Si tu manges très, très peu de glucides, la mortalité augmente. Mais attention, tous les régimes faibles en glucides ne sont pas égaux. » May Farage souligne « Si les graisses et les protéines viennent de sources animales, la mortalité est augmentée. Si ça vient de sources végétales, la mortalité est réduite. » Chez les grands consommateurs de glucides, on constate aussi une grande variation du risque. Là encore, rappelle May Farage, les glucides ne sont pas tous égaux non plus. Une diète riche en sucre ajouté, glucose, fructose, présente des risques pour la santé, mais une diète riche en légumes, fruits et fibres, également des glucides, n'en présente pas, résume-t-elle. L'étude du Lancet Public Health avait suscité des réactions d'autres chercheurs, certains rappelant que, dans les essais cliniques, les régimes faibles en glucides améliorent la santé métabolique et font perdre du poids. Mais les essais cliniques en nutrition se font normalement sur de courtes périodes, rappelle May Farage. Dans la littérature scientifique, ajoute-t-elle, tant les régimes faibles en glucides que ceux faibles en gras sont associés à une perte de poids après un an. L'important, dit-elle, c'est d'avoir une alimentation variée qu'on peut maintenir à long terme. Madame Farage ne peut dire ce qui est pire ou mieux entre le gras saturé et le sucre ajouté. C'est l'excès qui est mauvais, pas le fait d'en manger un peu. Qui plus est, les gras saturés ne sont pas tous associés à des anomalies métaboliques, souligne May Farage. Des chercheurs découvrent que ceux contenus dans les produits laitiers sont au contraire bons pour la santé, donne-t-elle en exemple. Enfin, l'effet des gras saturés et du sucre ajouté dépend aussi du reste de l'alimentation et du mode de vie. Si on fait de l'exercice, par exemple, ça réduit l'effet de l'un comme de l'autre, dit-elle. Omniprésence. Un peu de sucre ajouté, ce n'est pas bien grave, convient Jean-Pierre Després, professeur au département de kinésiologie de l'Université Laval. Sauf que le tiers de la population est inactive, dit-il, et le sucre est omniprésent. L'alimentation riche en sucre ajouté constitue une cause importante de diabète de type 2 et de maladies cardiovasculaires, et c'est la recette pour faire de la graisse abdominale, rappelle Jean-Pierre Després, qui ne porte aucun jugement sur les bibites à sucre. Il en a lui-même été une longtemps. C'est addictif, le sucre, rappelle-t-il. Monsieur Després conseille de simplement remplacer la moitié des aliments riches en sucre qu'on consomme par des options plus saines. Yogourt nature et fruits, légumes frais, beurre d'arachide pur, noix. L'impact sur la santé de ce type de substitution est spectaculaire et on ne parle pas de régime amaigrissant. Les gens mangent à leur faim, insiste-t-il. Vous écoutez Le sucre, la sédentarité ou le vapotage, un texte de Catherine Anfield, paru le 30 mars 2025 dans La Presse. Sédentarité ou cigarette? Qu'est-ce qui est pire entre la sédentarité et la cigarette? Fumer, sur le plan individuel, c'est plus dangereux que d'être inactif et d'être sédentaire, indique d'emblée le professeur Jean-Pierre Després. Les gens qui n'arrêtent pas de fumer vivent 10 ans de moins en moyenne. Aux États-Unis, quelques recherches ont estimé que les personnes inactives gagneraient de 1,3 à 3,7 années de vie à partir de 50 ans en devenant actives. Cela dit, il y a maintenant plus d'individus inactifs dans le monde que de fumeurs, rappelle Jean-Pierre Després, auteur du livre « La révolution active de la gestion de la maladie à la promotion de la santé ». Combien de décès dans le monde sont attribuables à l'inactivité physique? Les estimations varient, certaines étant plus conservatrices, d'autres moins. Selon une étude publiée en 2022 dans le British Journal of Sports Medicine, le manque d'activité physique tuerait pratiquement autant que le tabac. Les chercheurs lui ont associé 7% des décès contre près de 9% pour le tabac et 1,2% pour les boissons sucrées. L'inactivité physique est associée à de nombreuses pathologies, maladies cardiovasculaires, diabète de type 2, plusieurs cancers, dépression, démence. Quand on bouge, explique Jean-Pierre Després, le corps sécrète des enzymes, des protéines fonctionnelles, des gènes se réveillent. Quand vous avez toutes ces réponses qui vous rendent compétent à bouger, qu'est-ce qui va arriver? Vous allez vieillir moins vite parce que vous gardez votre corps allumé. Le tour de taille et la condition cardio-respiratoire sont déterminants dans la trajectoire de vie en santé, souligne M. Després, qui rêve du jour où ces valeurs seront mesurées et ajoutées au dossier médical des patients et du jour où les médecins de famille seront entourés de kinésiologues, de nutritionnistes, de travailleurs sociaux et de psychologues pour faire leur travail au quotidien. Actifs et sédentaires, la sédentarité est aussi associée à une moins bonne santé. On peut très bien être à la fois actif, suivre la recommandation de 150 minutes d'exercice modéré par semaine, et sédentaire, travailler assis de longues heures. Possible de contrer les effets néfastes de la sédentarité? Oui, selon une étude publiée en 2016 dans The Lancet, mais il faut bouger beaucoup. 1 heure d'activité modérée par jour, marche rapide, vélo, etc., semblait éliminer les risques. Et le vapotage? Plusieurs personnes se demandent si le vapotage est moins pire pour la santé que la cigarette. Peut-on l'affirmer sans risque de se tromper? Non, parce qu'on n'a pas le recul, répond Mathieu Morissette, professeur à la faculté de médecine de l'Université Laval. Ça fait une décennie à peine que le vapotage a pris son envol, souligne le chercheur en santé respiratoire. Il faudra attendre le passage de plusieurs autres décennies avant d'avoir la photo complète des effets de la cigarette électronique, dit-il. Si on prend des fumeurs qui fument du tabac depuis 10 ans, ils n'ont pas d'emphysème, pas de cancer, pas de maladie cardio-respiratoire, illustre-t-il. Pourquoi? Parce que ça prend plus de temps à se développer. Ce que les chercheurs savent déjà, c'est que le vapotage peut causer des maladies aiguës chez certaines personnes qui aboutissent aux soins intensifs. Cette réalité, encore mal comprise, n'est pas présente chez les fumeurs de tabac. Le tabac et le vapotage, en soi, ont peu de choses en commun, souligne Mathieu Morissette. La cigarette traditionnelle implique la combustion de feuilles de tabac séchées. La cigarette électronique, elle, contient un liquide qui, pour être inhalé, est transformé en très petites molécules par atomisation, un peu comme lorsqu'on laisse tomber une goutte d'eau sur un rond de poêle, illustre-t-il. Les liquides de vapotage contiennent des agents transporteurs, propylène glycol et glycérine végétale, mais aussi des parfums de toutes sortes, des produits qu'on ne retrouve pas dans le tabac. On est vraiment en terre inconnue, affirme-t-il. On ne sait pas ce qu'on cherche, alors on cherche large. Et honnêtement, on trouve. Qu'avez-vous trouvé jusqu'à maintenant? Dans nos cohortes de vapoteurs, il y a une proportion élevée de gens ayant une hyperactivité bronchique, un état que plusieurs asthmatiques présentent, explique le professeur. Leurs bronchioles, les petites ramifications des bronches, sont plus susceptibles de se contracter. La réponse pulmonaire varie en fonction des ingrédients, mais aussi des individus. Tout vapoteur n'est pas égal, résume-t-il. Cette hyperactivité bronchique suggère que des changements s'opèrent dans le poumon, avertit Mathieu Morissette. Comment ça va se traduire dans le futur? Est-ce que ça va être une maladie irréversible incroyable? Est-ce que ça va rester à cet état-là pendant des dizaines d'années? On ne le sait pas. On va voir. Malheureusement, toute personne qui vapote présentement est un cobaye, affirme Mathieu Morissette, qui a l'impression de rejouer dans un film des années 1950, lorsque les premiers scientifiques ont sonné l'alarme pour le tabac. C'était « Le sucre, la sédentarité ou le vapotage », un texte de Catherine Anfield, paru le 30 mars 2025 dans La Presse.
Au-delà de la régularité, un texte de Catherine Anfield paru le 23 mars 2025 dans La Presse. En quoi les fibres sont-elles importantes pour la santé intestinale? Explication en 6 points avec le professeur Alain Veilleux de l'Université Laval, dont la recherche porte sur l'intestin grêle. Enzymes et fibres. Le système digestif sécrète des enzymes que le professeur Veilleux compare à des paires de ciseaux. Les enzymes sont capables de couper des chaînes de molécules, l'amidon par exemple, en petites molécules de sucre qui pourront être absorbées et qui deviendront disponibles pour l'organisme. Pour les fibres, c'est un peu plus complexe, explique-t-il. La majorité d'entre elles ne sont pas digérées par les enzymes que le corps produit. Elles aboutissent donc intactes ou presque dans le côlon. Effet physique. En transitant par l'intestin grêle, les fibres dites solubles forment un gel, explique le professeur Alain Veilleux. Ce gel visqueux peut ralentir la progression et aussi ralentir l'absorption des autres sucres dans l'intestin grêle, explique-t-il. Cela évite d'envoyer trop de glucose en même temps dans la circulation et augmente la sensation de satiété, l'impression d'avoir suffisamment mangé. Dans le côlon, les fibres insolubles, elles, ont tendance à absorber l'eau. Cela augmente le volume des selles et ça aide à la régularité, explique Alain Veilleux. Bactéries. Contrairement aux cellules du corps humain, les bactéries qui vivent dans le côlon, microbiote, ont les ciseaux qu'il faut pour couper les fibres. Les fibres solubles leur sont facilement accessibles, précise Alain Veilleux. Chaque bactérie a sa spécialité. Certaines bactéries vont donc être capables de couper certaines fibres, explique-t-il. Les bactéries les digèrent, prennent ce dont elles ont besoin pour vivre et relâchent ce qu'on appelle des métabolites, des petites molécules. Métabolites. Ces métabolites deviennent disponibles pour nos propres cellules et les scientifiques leur attribuent un nombre croissant d'effets. Les bactéries sont capables de faire énormément de métabolites qu'on découvre peu à peu, explique le professeur Veilleux. Plusieurs sont associés à une meilleure santé, comme les acides gras à chaîne courte, qui ont des propriétés anti-inflammatoires. Les études sur ces métabolites touchent à peu près toutes les maladies, indique Alain Veilleux. Inflammation. L'inflammation dans l'intestin est associée à différents problèmes, dont la perméabilité intestinale. Les jonctions entre les cellules de la paroi intestinale se fragilisent, explique Alain Veilleux. Des molécules vont avoir tendance à passer et à se retrouver dans la circulation, illustre-t-il. Il peut y avoir des effets néfastes. Les personnes qui font de l'obésité abdominale ou qui sont atteintes du diabète de type 2 ont souvent ce genre de problème. Ça devient un cercle vicieux, résume le professeur. Diversité. Si on mange déjà des légumes, des fruits, des noix, faut-il vraiment ajouter des grains entiers à son alimentation? Plus on mange de fibres différentes, plus on pourra nourrir de bactéries différentes, rappelle le professeur Veilleux. Un microbiote qui contient plusieurs types de bactéries est associé à une meilleure santé, conclut-il. C'était « Au-delà de la régularité », un texte de Catherine Enfield paru le 23 mars 2025 dans La Presse.
Le Cercle des femmes parlementaires du Québec. Un texte de Myriane Demers-Lemay, paru le 26 février 2025 dans La Gazette des femmes. Pour une solidarité féminine au Salon Bleu. Depuis 2010, le Cercle des femmes parlementaires du Québec offre un espace de solidarité et d'échange entre les élus, favorisant le dialogue sur des enjeux qui touchent les femmes au-delà des lignes partisanes. Au Québec, la solidarité transpartisane des femmes a rendu possible plusieurs avancées majeures pour les droits des femmes. Après des décennies de lutte féministe acharnée, les Québécoises obtiennent le droit de vote en 1940, 20 ans après la plupart des autres provinces. 50 ans plus tard, cette même solidarité féminine, transpartisane, permet l'adoption de lois clés. En 1989, une nouvelle loi modifie le Code civil et garantit l'égalité des conjoints dans le partage du patrimoine familial. Québec adopte ensuite la loi facilitant le paiement des pensions alimentaires, 1995, et la loi sur l'équité salariale, 1996. À l'instar de plusieurs pays dans le monde, cette solidarité féminine s'institutionnalise au Québec grâce à la création du Cercle des femmes parlementaires du Québec en 2010. L'espace vise à outiller les femmes dans leur rôle de législatrice et à favoriser la circulation d'idées et d'échanges sur des enjeux qui touchent les femmes. Un petit comité formé d'une représentante de chaque parti et d'une présidente administre le cercle. Je trouve ça génial que ces femmes disposent d'un espace pour échanger entre elles sur leur réalité et leurs expériences, tant à l'Assemblée nationale qu'à l'extérieur. Apprécie Michel Setlaquet, députée libérale de la circonscription de Mont-Royal-Outremont et membre du comité restreint qui administre le cercle. Le cercle organise des activités dans lesquelles les femmes parlementaires peuvent échanger et se renseigner sur des questions d'intérêt commun. Depuis sa création, le cercle a notamment abordé des thèmes comme les mères porteuses, le commerce du sexe ou le quota des femmes en politique. Entre 2015 et 2017, dans la foulée de la Commission de vérité et réconciliation du Canada, le cercle a accueilli le témoignage de femmes autochtones, rappelle Chantal Soucy, députée caquiste de Saint-Hyacinthe, vice-présidente de l'Assemblée nationale et présidente du Cercle des femmes parlementaires et du Réseau des femmes parlementaires de la francophonie. Le cercle a joué un rôle dans l'instauration d'une garderie à l'Assemblée nationale, mentionne la politicienne. On a aussi instauré un système de mentorat avec d'anciennes parlementaires et on donne des formations en communication et en leadership. En 2022, à l'initiative de la députée solidaire, Ruba Ghazal, les élus de tous les partis se mobilisent par solidarité avec les Iraniennes et le mouvement Femmes, Vie, Liberté, ce qui mène à l'adoption d'une motion à l'Assemblée nationale pour condamner la répression des femmes en Iran. En mai 2024, un programme de jumelage a permis à une dizaine de jeunes femmes de suivre des députés dans les coulisses du Salon Bleu pendant 2 jours. La solidarité féminine au sein de l'Assemblée nationale se heurte à 2 obstacles majeurs, le manque de temps des parlementaires et la partisanerie. Au cours des dernières années, le cyberharcèlement et la cyberviolence ont particulièrement retenu l'attention. Plusieurs parlementaires ont assisté à la projection du documentaire « Je vous salue, salope », la misogynie au temps du numérique. Les femmes parlementaires ont également pris la parole à l'Assemblée nationale pour énumérer les menaces qu'elles avaient reçues sur les réseaux sociaux, ce qui a mené à l'adoption d'une motion, raconte Chantal Soucy. Une motion, ça sensibilise et ça ramène le débat sur la scène publique, croit-elle. Le cercle est un bon véhicule pour faire avancer des causes. Le défi de la partisanerie. La solidarité féminine au sein de l'Assemblée nationale se heurte toutefois à 2 obstacles majeurs, le manque de temps des parlementaires et la partisanerie. Depuis la pandémie, on est beaucoup moins active, admet Chantal Soucy, qui se dit motivée à faire de la place dans son agenda chargé pour relancer le comité. Ce dernier n'aurait réalisé qu'une seule réunion en présentiel depuis 2022. C'est très difficile d'avoir des combats en commun en raison de la partisanerie, poursuit la caquiste. C'est difficile d'ouvrir certains débats. Ensuite, il faut que ça s'insère dans le programme politique du gouvernement. Dans son essai « La solidarité féminine à l'Assemblée nationale du Québec, transgresser les façons de faire », publié en 2018, Justine Lalande analyse les défis rencontrés par l'instance. Si la solidarité interpartisane a été un élément essentiel dans l'histoire du Québec pour faire avancer les droits des femmes, elle se bute toutefois au système parlementaire britannique qui est basé sur l'opposition et la confrontation, écrit la doctorante en communication à l'Université du Québec à Montréal, alors boursière de la Fondation Jean-Charles Le Bon-Enfant. Selon Justine Lalande, la principale critique formulée à l'égard du cercle concerne son caractère non partisan, quoique cette neutralité soit inhérente à son existence. En voulant tellement protéger la neutralité du cercle pour assurer sa survie, on semble avoir diminué le poids législatif que pouvaient avoir les femmes auparavant lorsqu'elles s'unissaient autour d'une cause, observe-t-elle. Un rempart contre le recul des droits. Si l'égalité juridique entre les femmes et les hommes est acquise au Québec, les inégalités systémiques persistent et les avancées demeurent vulnérables dans le contexte actuel. Je ne sais pas à quel point toute la société est consciente des dangers qui guettent des droits qu'on a tenus pour acquis, met en garde Ruba Gazal, députée solidaire de Mercier et membre du comité du Cercle. Dans la foulée de l'élection de Donald Trump, une colère gronde. À l'Assemblée nationale, il faut qu'on fasse quelque chose et qu'on soit le relais de ça. De son côté, Michel Setlakwe s'inquiète des menaces qui pèsent sur la représentation des femmes dans la sphère politique québécoise. Il y a eu beaucoup de démissions municipales depuis 2021, observe-t-elle. On se demande si des femmes vont encore se présenter pour les élections municipales cette année. Je pense que les élus actuels ont un rôle à jouer pour s'assurer qu'il y aura une relève et que les femmes n'auront pas peur de se présenter en politique. Malgré les défis, les membres du Cercle des femmes parlementaires du Québec restent déterminés à faire entendre leur voix, que ce soit pour assurer une meilleure représentation des femmes en politique ou pour protéger le droit des femmes. C'était le Cercle des femmes parlementaires du Québec. Un texte de Myriane Demers-Lemay, paru le 26 février 2025 dans la Gazette des femmes.